Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce tout premier épisode. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Aglété. Aujourd'hui, c'est la revue Far West qui est à l'honneur. Far West, c'est une revue en ligne qui entend raconter le Sud-Ouest entre journalisme et séries documentaires. Et nous nous intéressons plus particulièrement à un article qui fait écho à une exposition saluée par la critique. Elle a lieu en ce moment au Bassin des Lumières à Bordeaux. Elle est consacrée aux peintres Paul Klee et Gustav Klimt. Le Bassin des Lumières se trouve au cœur de l'ancienne base sous-marine de la ville. C'est donc un lieu de culture aujourd'hui, mais cet endroit a aussi été le théâtre d'un épisode dramatique de la Seconde Guerre mondiale. Il a été aussi l'un des symboles de la façon dont la France a traité les réfugiés de la guerre civile espagnole. Cette page sombre de l'histoire, c'est vous qui la racontez dans la revue Far West. Votre article s'appelle « La base sous-marine à rouge sang ». Bonjour Laurent Perpignan-Iban.
Bonjour Jean.
Tout d'abord un mot sur cette base aujourd'hui, Laurent. Est-ce que vous pouvez nous décrire où elle se situe et à quoi elle ressemble ?
Alors la base sous-marine se situe sur le bassin à flot, du côté donc de Bordeaux-Nord. C'est un immense édifice de béton qui est une des dernières cicatrices visibles dans Bordeaux de la Seconde Guerre mondiale. Un lieu d'apparence assez lugubre, mais qui a été transformé ces dernières années en lieu de culture et où les expositions et les manifestations artistiques se succèdent donc depuis à peu près 2 décennies.
Alors, on l'a dit, ce qui vous amène à parler de la base sous-marine, c'est cette exposition consacrée à Paul Klee et Gustav Klimt. C'est une exposition particulièrement spectaculaire. On parle d'art numérique. De quoi s'agit-il exactement ?
Il s'agit d'une exposition où les lumières sont à l'honneur, ce qui est finalement un phénomène assez intéressant dans cette base totalement monochrome. Et c'est un événement qui a un retentissement régional très important, puisqu'on attend plus de 350 000 personnes à ce bassin des lumières. Et en effet, déjà, les premières critiques de toutes les personnes qui ont pu visiter cette exposition sont enthousiasmées. Los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar mientras quieren milicianos los moros no pasarán.
Le bassin des Lumières qui accueille cette exposition se trouve, on l'a dit, dans la base sous-marine de Bordeaux, et cette base a une histoire particulièrement sombre. Elle a été construite durant la Seconde Guerre mondiale, mais pour bien comprendre, il faut remonter quelques années plus tôt, plus précisément à la guerre d'Espagne, la guerre civile qui a déchiré ce pays entre 1936 et 1939. D'un côté, les républicains et le gouvernement qui a été démocratiquement élu, de l'autre, les nationalistes emmenés par le caudillo, le général Franco, qui lance un coup d'État en juillet 1936. Au terme de 3 ans de combat, ce sont ces derniers, les nationalistes donc, qui l'emportent et qui contraignent des centaines de milliers de républicains à l'exode. Ils sont 500 000 à se réfugier en France. Où et comment sont-ils accueillis ?
Il y a différentes vagues. On a dénombré à peu près 5 vagues de migration de réfugiés qui sont arrivés aux frontières françaises. La plus connue, en effet, c'est la Retirada, qui se situe donc au début, en janvier, en février 1939. C'est la plus impressionnante parce que c'est la prise de la Catalogne, qui était un des derniers bastions encore aux mains des républicains. Le Pays Basque était déjà tombé depuis plusieurs mois et plusieurs années, pour Irun en particulier, et avait amené à Bordeaux énormément de réfugiés républicains espagnols. La Retirada, c'est un demi-million de personnes, c'est 500 000 républicains espagnols qui fuient le régime franquiste et qui viennent se réfugier en France, où ils vont être parqués dans de nombreux camps aujourd'hui. Alors, on peut parler effectivement du camp d'Argelès, qui en reste le plus connu, mais c'est une époque définitivement trouble en France. Voilà, les derniers gouvernements de la Troisième République, sous couvert de crise économique, ont parqué ces réfugiés, qui voyaient clairement comme une menace pour la stabilité du pays, dans des camps. Il y a à l'époque déjà des assignations à résidence de ces républicains espagnols qui sont faites. Il y a un triage effectivement qui se fait également entre la partie saine et laborieuse de cette population étrangère, des camps d'internement, et on parle déjà à cette époque-là de camps de concentration.
D'accord, vous évoquez ce terme de camp de concentration, c'est un terme très officiel utilisé par l'État français. Les réfugiés sont parfois aidés avec beaucoup de bienveillance, mais vous l'avez dit, ils sont également et peut-être surtout largement rejetés, notamment par une extrême droite qui monte en puissance.
Oui, il y a les décrets-lois d'Aladier qui vont poser le socle de l'ostracisation de ces réfugiés espagnols et de leur utilisation à dessein. C'est-à-dire que dès cette époque-là, on prévoit de les trier, d'interner les plus dangereux politiquement et de faire travailler l'autre partie qui peut être potentiellement soumise à une activité professionnelle et qui se transformera derrière en travaux forcés. Les familles sont déchirées, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, les femmes avec les enfants. On apprendra qu'il y a beaucoup de familles qui se retrouveront plus de 6 années après, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Tout cela explique l'état présent du moral du peuple allemand, malgré ses victoires. La France blessée a le droit de se retourner vers les autres démocraties et de leur dire « J'ai des droits sur vous ».
Vous l'évoquez, en 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate, les Allemands occupent la France et Bordeaux héberge très provisoirement le gouvernement de Paul Reynaud en juin 1940. La même année, les Allemands commencent à organiser leur défense sur le littoral atlantique, craignant déjà un débarquement. Il y a les bunkers, bien sûr, qui sont construits sur les plages, mais on crée aussi des bases sous-marines, notamment à La Rochelle, à Brest, à Lorient et donc à Bordeaux. Tout cela se fait dans des conditions difficiles, car l'aviation alliée bombarde régulièrement ces sites. Alors le gouvernement français, désormais installé à Vichy, va proposer à l'Allemagne de mettre à contribution les républicains espagnols et particulièrement les communistes, très engagés évidemment contre le franquisme.
Il y a quelque chose de fondamental, c'est que la flotte sous-marine italienne stationne depuis déjà 1940 au bassin à flots. À partir du moment où il y aura un certain nombre de bombardements alliés, les Allemands vont décider de la sécuriser et également d'envoyer une partie de leur flotte là-bas. Ça va se transformer clairement en camp retranché, en une zone extrêmement dangereuse. Certains témoignages de l'époque rapportent que le quartier était extrêmement dangereux, la population était absolument terrorisée par les bombardements alliés autant que par la présence des forces allemandes. C'est réellement un tournant parce que cette base sous-marine, il faut la construire. Et donc on a besoin de main d'œuvre. Le récit officiel allemand à l'époque va parler de milliers de volontaires qui vont être envoyés là-bas pour construire cette base sous-marine. Mais ce qu'il faut savoir effectivement, c'est que les Français ne veulent pas faire ce travail et le gouvernement français ne veut pas laisser des Français s'exposer dans de telles conditions à couler du béton 24 heures sur 24. Donc on va choisir des personnes vulnérables, des personnes qui n'ont pour la société française et selon la société française à l'époque absolument aucune utilité. On va parler des coloniaux d'abord, donc des prisonniers algériens en particulier, qui vont être envoyés aussi pour construire cette base sous-marine. Et ensuite, dans ce que les Allemands vont appeler un nouvel effort de guerre pour eux, ils vont décider d'acheminer dans chaque base sous-marine 3000 républicains espagnols. C'est un chiffre qui est décidé et qui est acté. Et donc ils vont partir des camps, et notamment du camp d'Argelès et des camps qui se situent aujourd'hui dans les Pyrénées-Atlantiques. Ils vont partir par train et desservir donc les gares de Bordeaux, de La Rochelle, de Saint-Nazaire, de Brest et de Lorient.
Alors à Bordeaux, ces républicains espagnols travaillent sous l'autorité d'un certain Otto Warnke, un homme étonnant, controversé, qui n'est pas sans rappeler d'autres personnages de cette période, comme Joseph Joanovici, le célèbre Monsieur Jo, des gens dont on ne saurait dire s'ils ont été davantage des héros ou des salauds. Parlez-nous un peu de cet homme, Otto Warnke.
Il a un profil totalement atypique. Déjà, il faut savoir que il a été connu et reconnu comme un personnage central de cette histoire-là très tardivement. Et aujourd'hui, il y a toute une équipe d'historiens qui sont en train d'essayer de tricoter son passé, d'arriver à créer un fil conducteur pour expliquer qui il était vraiment. Alors, cet Otto Warnke, c'est un hispano-germanique, donc à l'époque il ne devait certainement pas y en avoir énormément, qui a combattu avec les Républicains, avec la CNT, plus exactement, la Confédération Nationale du Travail, sur le front d'Aragon. Il s'est réfugié en France, à la fin des années 30, avec l'ensemble des Républicains espagnols qui étaient dans les camps. Lui aussi était dans un camp, mais il a très vite servi de traducteur. Pour les Français, déjà, pour commencer. Et puis ensuite, il a été plébiscité pour devenir un membre relais de TOT, donc, qui était l'industrie de génie civil allemande qui a permis de construire un certain nombre d'édifices, et notamment les bases sous-marines. Donc ce personnage-là est devenu très vite central. Il servait d'abord de traducteur entre les Allemands et les Républicains espagnols, puis ensuite il a servi de recruteur, à tel point qu'il a pris des responsabilités au sein de l'organisation TOT, ce qui l'a amené à gérer la caserne Niel. La caserne Niel, donc, c'est aujourd'hui l'actuel Darwin. C'est ici qu'ont été parqués plusieurs milliers de Républicains espagnols. Auparavant, ils étaient dans un camp près de la poudrerie de Saint-Médard-en-Jalles. C'était très loin de la base sous-marine, donc ils ont été envoyés ensuite dans les baraquements de la caserne Niel. Et cette caserne Niel a été sous le contrôle direct d'Otto Warnke. Il paraît, les témoignages disent que les conditions de vie à la caserne Niel pour les Républicains espagnols étaient largement meilleures que dans les autres camps. Attention, on parle quand même de travaux forcés. Donc, quand on parcourait du béton 24 heures sur 24, la vie n'est certainement pas facile, évidemment. Mais eu égard aux conditions de travail des autres républicains espagnols, et notamment dans la construction des autres bases sous-marines, il y a quand même une différence notoire. Et cette différence, elle est matérialisée justement par le caractère assez ambigu de ce personnage, qui est d'abord un résistant, qui est d'abord un républicain, puis qui finit par travailler pour l'ennemi, et qui a un rôle assez étrange, parce que en 1942, il y a plus d'un millier de républicains espagnols qui s'évadent de la caserne Niel. Les spécialistes, les historiens disent que c'est totalement inimaginable que ces évasions à si grande échelle se soient réalisées sans la complicité de ce Otto Warnke.
On va revenir sur ces évasions dans un instant, mais pour parler de leurs conditions de travail, alors peut-être que grâce à Otto Warnke, et vous nous le dites, ça va être précisé sans doute dans les mois à venir, les conditions de travail donc sont peut-être un peu moins dures qu'ailleurs, pour autant elles restent extrêmement pénibles et elles coûtent la vie d'ailleurs à nombre de républicains.
À cette époque, les républicains espagnols partent tous les matins en bateau. Il y a un bateau qui stationne devant Darwin, l'actuel Darwin, devant donc la caserne Niel, et qui les emmène jusqu'au bassin à flot, où ils travaillent entre 11 et 12 heures d'affilée à couler du béton. Il y a des équipes qui se relaient jour et nuit pour essayer de faire avancer ces travaux le plus rapidement possible. Les conditions de travail sont en effet très difficiles. C'est les SS qui surveillent le chantier et qui forcent un petit peu le rendement de ces républicains espagnols. C'est très difficile d'avoir des chiffres parce que les Allemands ont fait en sorte, à la fin de la guerre, de tout effacer, d'effacer cette partie-là de l'histoire. Les Français, puisque cette base sous-marine et le travail des républicains espagnols portent aussi le tampon, le sceau de la collaboration. Les Français n'ont pas fait beaucoup d'efforts non plus pour rendre cette histoire publique. On parle aujourd'hui d'à peu près 70 républicains espagnols qui seraient morts dans ce chantier. Certainement que certains ont été emmurés et ils sont encore au sein de l'édifice. Maintenant, les historiens n'ont pas pu recueillir de traces tangibles de ça, même si en effet c'est une supposition sur laquelle tout le monde s'accorde à peu près. En tout cas, il s'agirait en effet de 74 personnes qui seraient mortes dans la construction.
Vous évoquiez leur évasion, l'évasion d'un millier d'entre eux. Dans quelles conditions se sont-ils échappés et est-ce qu'ils sont parvenus à ne pas être repris?
Une partie importante a réussi à échapper aux griffes de l'occupant. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils vont avoir un rôle extrêmement précieux dans la libération. Donc là, on part quelques années en avant. À partir du moment où ces républicains espagnols s'évadent, ils vont rejoindre d'autres brigades, un petit peu partout en France, de républicains espagnols qui sont engagés aux côtés de la résistance. Près de 10 000 républicains espagnols vont s'engager dans la résistance, ce qui fait d'eux les brigades étrangères les plus nombreuses en France à cette époque.
Alors 80 ans après cet épisode si douloureux, quelles traces mémorielles en reste-t-il ?
Il y a des combats qui sont menés par des descendants de républicains espagnols, à Bordeaux en particulier, autour de plusieurs associations, mais également à Brest, à Pau et dans plusieurs villes en France, pour faire reconnaître la souffrance qui a été imposée aux républicains espagnols, qui est teintée en plus de cynisme, étant donné qu'ils ont joué un réel rôle dans la libération de la France. Et malgré les promesses du général de Gaulle, rien n'a été fait derrière. Nous, on est particulièrement touchés, étant donné que sur le front de la pointe de Grave, il a été libéré par des Basques, par le bataillon Guernica, et par des anarchistes espagnols, qui étaient le bataillon Libertas, et qui ont été largement moteur de cette libération. Et pourtant, encore aujourd'hui, il s'agit d'une vraie bataille pour renommer simplement une rue, pour renommer, comme ça a été le cas à Pau, une impasse. Ça a pris des années à Pau pour qu'il y ait une impasse au nom des républicains espagnols. La base sous-marine porte, elle, aujourd'hui, une stèle, un monument qui a été érigé directement par ces associations, quasiment, malheureusement, sans l'aide de personne. Donc, il est clair que demain, on parle d'un demi-million de personnes, hein, donc aujourd'hui, vous comptez leurs descendants, ça fait potentiellement plusieurs millions de personnes qui attendent aujourd'hui encore un geste de l'État français sur la reconnaissance de la souffrance infligée aux républicains espagnols.
Parmi les associations les plus actives à Bordeaux que vous citiez, il y a notamment Ay Carmela, du nom de l'un des chants entonnés par les républicains que l'on entend derrière nous. Merci Laurent Perpignan-Iban d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre article « La base sous-marine rouge sang » est à retrouver sur le site de la revue Far West. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci à Anne-Charlotte Delange, Ludivine Lanieps, Mathilde Leuil et Marion Ruault qui m'ont aidé à le préparer, ainsi qu'à Gabriel Taïeb qui l'a réalisé. Podcasting, c'est le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou Spotify. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. Their meditations range to fit your needs each day, from anxiety and stress, relaxation and focus, to building habits and taking care of your physical well-being. They even have expert-led talks on topics such as tips for overcoming stress and anxiety, handling grief, improving self-esteem, caring for relationships, and more. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.